Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
David Murray, on trouve peu de musiciens dans l'histoire du jazz aussi productifs et créatifs que vous depuis 35 ans, depuis le moment où vous avez visité New York à 20 ans, lorsque vous étiez étudiant. Vous n'avez cessé de produire un son nouveau. Vous avez sorti plus de 150 albums. Et encore plus impressionnant que ce nombre d'albums, c'est la constance de votre travail comme saxophoniste ténor. Vous avez perfectionné une approche immédiatement reconnaissable de l'improvisation. Vous incarnez un certain état du jazz partagé entre l'attachement fidèle à la mémoire, aux racines, notamment de la musique noire, et le besoin d'expériences et de rencontres inédites. Est-ce que c'est ça, le jazz, un équilibre entre mémoire et nouveauté ?
Well, jazz is the teacher and funk is the preacher.
Il y a une sorte d'adage qui dit que le jazz, c'est le maître, le professeur, et que la funk, c'est le prêtre, le prédicateur. Cela signifie beaucoup de choses. C'est un morceau d'Ornette Coleman qui évoque ce type de philosophie. Parce que si tu fais rentrer n'importe quelle musique folk dans le prisme du jazz, cela devient une musique plus intellectuelle. En un sens, cela rend la musique meilleure. Quand je travaille, par exemple, avec des musiciens africains ou des musiciens d'une autre culture, je peux produire un son différent juste en ajoutant du jazz dedans, mais en évitant de détruire la pureté de la musique. Parce que vous savez, la plupart des musiciens africains, ils veulent jouer et chanter uniquement les vieilles chansons comme ils les ont entendues dans leur village. En faisant comme ça, ils n'apportent pas forcément quelque chose de nouveau à la musique. C'est un peu comme cette notion japonaise qu'utilise Akitakaze, le kaizo. Et le kaizo en japonais signifie se souvenir. Les Africains vivent plus dans le passé que dans le futur et le présent. Spécialement quand il s'agit de musique, ils veulent jouer avec des maîtres. C'est pour ça que je suis intéressé par ce que signifie réellement le jazz. Donc je suis là pour être celui qui peut le faire, je suis là pour ça, réaliser cette fusion entre le passé et le futur à travers le prisme du jazz.
Vous jouez du saxophone ténor et de la clarinette basse, un instrument plus rare dans le jazz. Est-ce qu'il y a des points communs entre ces deux instruments pour vous dans votre pratique ou est-ce que c'est très séparé ?
Oui, bien sûr. La plupart des gens qui jouent du saxophone soprano ont commencé sur une clarinette soprano. Je n'ai pas commencé par la clarinette parce que mon frère en jouait déjà lorsque j'étais petit. Et lui, il a 18 mois de plus que moi. Donc je ne pouvais pas jouer de cet instrument parce qu'il l'avait déjà pris. Donc j'ai eu un sax alto à la place. Et je ne suis venu à la clarinette basse que beaucoup plus tard, quand j'avais environ 22 ans. Parce qu'un ami à moi, James Newton, qui jouait de la flûte, m'en a offerte une en cadeau de mariage quand je me suis marié pour la première fois. C'est depuis ce moment-là que je joue de la clarinette basse. Bon, c'est vrai que le mariage n'a tenu que 3 mois, mais bon, je joue toujours. Ça a donc bien fonctionné.
Votre collaboration avec Akitakaze pour l'album Blue Monk, en hommage au grand Thelonious Monk, date de 1995. Comment vous vous êtes rencontrés autour de Thelonious Monk avec Akitakaze ?
Oui, c'était déjà en 1995. Et il y a 2 mois et demi, nous avons enregistré un nouvel album avec Akitakaze en Suisse. Nous avons fait cela sur un petit label suisse et beaucoup de la musique que vous avez entendue ce soir vient de ce nouvel album. On n'a pas joué beaucoup de mes compositions ce soir car j'ai oublié de les apporter. Mais on essaye de garder un certain équilibre. Si elle apporte 4 morceaux, j'en apporte 4 également. Mais voilà, certaines de mes compositions n'ont pas été jouées ce soir. C'est peut-être parce que les morceaux d'Akitakaze sont plus faciles à jouer.
What do I listen to?
Ce que j'écoute en ce moment?
Well, I've been in New York, so I just hear really bad rap a lot.
En fait, en ce moment, je suis à New York, donc j'entends beaucoup de mauvais rap. Pas mal de mauvais rap dans la rue. Je vis à Harlem, donc j'entends pas mal de mauvais rap. Mais quand je contrôle ce que j'écoute, j'écoute du classique, du jazz. Ellington, James B. Johnson.
Classical music. I listen to when I'm
J'écoute de la musique quand je suis dans ma voiture.
It depends on what, how I feel that
Et
day.
Cela dépend de comment je me sens ce jour-là.
In the city, I turn on less stressful music.
S'il y a par exemple beaucoup de stress dans la ville, je mets une musique relaxante, je ferme les fenêtres, je conduis très lentement et je m'isole ainsi de l'extérieur, en essayant de ne pas rentrer dans ce stress spécifique de New York, cette rage du trafic new-yorkais, parce que cette rage, elle peut être très très dangereuse et tuer des gens. Vous savez, la musique qui permet de se relaxer et de réduire le stress, la musique zen, nous en avons de plus en plus besoin en ce moment. Bon, d'accord, le rap excite les gens. Mais je ne suis pas sûr que ça soit si positif. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'informations dans la musique que ce que les rappeurs y mettent. Et je pense même que c'est dangereux. Quand par exemple vous avez une boucle dans une tape, une boucle d'une mesure de 4 temps par exemple,
c'est dangereux, vous savez.
Il y a donc une boucle musicale et toutes les quatre mesures, je dis « je te tue ou meurs ». Ne croyez pas que cela ne vient pas influencer vos émotions et même peut-être vos actions. Je pense que la musique est importante en tant que conditionnement de l'être humain. Tout à l'heure, vous parliez d'Albert Ayler. Il a dit que la musique est la force guérissante de l'univers. Je pense que c'est important. Et c'est même pour ça que la musique est faite. Einstein a dit que la musique est un dieu. Il y a des gens importants qui ont dit des choses sur la musique et les gens doivent comprendre ce que la musique est vraiment. Le rap n'est pas de la musique. À ce sujet, j'ai travaillé avec Swall Williams. Il n'est pas un simple rappeur, il est également un visionnaire. Il est un poète. Il y a une grande différence entre la poésie et le rap. Parce que, par exemple, vous savez, si Duke Ellington avait écrit des paroles, il aurait écrit une chanson comme Warm Valley, par exemple. Warm Valley, cette chanson est un ballet. Il y parle d'une vallée chaude, comme celle d'ici, de champs verts comme ceux que l'on peut traverser ici. Et petit à petit, on comprend que c'est une évocation métaphorique du sexe. Mais il le fait avec une grande classe poétique. Alors que d'un autre côté, tu vas entendre « Hey, tu veux de la chatte, po. » Mais moi, je ne veux pas entendre ça. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Offrez-moi de la poésie. Parlez-moi d'une vallée chaude. Nous devrions étudier la poésie, les poètes. En Russie, quand Pushkin disait quelque chose, le public restait silencieux. Et il s'exprimait parce que les personnes étaient silencieuses. Les gens recevaient ces paroles et ils réalisaient qu'ils devaient être silencieux à ce moment-là. Mais personne ne fait plus ça. Les gens ne cherchent plus la poésie. Ils cherchent du Donald Trump. Il n'y a rien là-dedans. Le monde devrait être rempli de poésie. Les poètes sont des visionnaires. Mais les gens doivent réapprendre à les écouter.
Thank you very much.
You're welcome.